Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue au récit insolite de la Bible avec Sébastien Daune. Il y a un an à peu près, à la demande de mes étudiants, j'ai écrit un livre sur les récits insolites de la Bible qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn ?». Depuis, on m'a demandé de faire une série d'émissions où on explore justement les récits insolites de la Bible, les récits que moi je trouve plus intéressants que les autres. Aujourd'hui, je vous propose le veau d'or, un récit que vous pensez peut-être connaître, mais vous rappelez-vous, est-ce que Dieu va pardonner ou punir le peuple suite à son écart de conduite? Est-ce que c'est une histoire de pardon ou un massacre, ou même peut-être les deux? Ben, c'est ce qu'on verra. Avant de plonger dans notre thème principal, j'aime bien revenir sur les émissions précédentes avec des questions, des commentaires que vous m'envoyez. Mais cette semaine, j'ai rencontré Marie, une auditrice, qui est amateur de romans historiques et se demandait s'il y en avait à propos de la Bible qui pourrait être intéressant. Je lui ai suggéré ceci. À travers trois romans, un auteur qui s'appelle Marek Alter raconte l'histoire des femmes de la Bible. Je trouvais ça assez intéressant. Alors, bon, la semaine dernière, on a parlé d'Abraham. Le premier tome porte sur Abraham, mais à travers le regard de sa femme Sarah. C'est assez intéressant. On voit qu'elle est stérile, elle se bat pour conquérir sa place. Dans le deuxième tome, on porte l'attention sur Tsipora, qui est l'épouse de Moïse. On en parle très peu dans la Bible, mais Marek Alter va faire tout un roman historique à partir de ça. On la voit, elle, qui est noire, étrangère, qui défend l'idée de la loi comme protection des faibles. Puis finalement, le troisième tome de cette trilogie-là, c'est sur Lila, qui est la sœur d'Esdras. Elle va lutter contre l'extrémisme religieux dont les femmes sont les premières victimes. Donc, c'est une trilogie qui parle de la Bible à travers les femmes de la Bible. Je vous lis une présentation qu'en fait l'auteur. Marek Alter écrit « Un jour, je me suis demandé si l'absence du regard féminin sur la Bible n'était pas à l'origine de tous les malentendus qui suscitent tant d'interrogations et de débats parmi les hommes. Aussi, ai-je essayé de relire la Bible à travers les femmes. Brusquement, tout changeait. Les événements historiques retrouvaient leur place, les invraisemblances disparaissaient. » Donc, si vous voulez aller lire un roman à propos de la Bible pour essayer de comprendre la Bible à travers des lunettes des personnages féminins, je vous suggère très fortement cette trilogie de Marek Alter. Un peu de musique de Vivaldi et on vient à notre question principale, le veau d'or. Est-ce que c'est une histoire de pardon ou une histoire de massacre? Le récit du jour est celui du veau d'or. Je vous remets en contexte. Pendant que Moïse reçoit les 10 commandements sur la montagne, bien le peuple, lui, s'impatiente et se fait une idole, ce qui est clairement interdit dans la première partie des 10 commandements du Décalogue. Je vous lis cette histoire, ceux qui ont leur Bible proche vous fait fouiller, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, les versets 1 à 28. Vous allez voir, c'est un peu long, mais c'est très intéressant, surtout la fin qui est assez, en tout cas, au moins insolite. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit « Arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apporte-les-moi. » Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'il avait aux oreilles et les apporta à Aaron. Ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau. Ils dirent alors, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron le vit, et il bâtit un autel en face de la statue. Puis Aaron proclama ceci, « Demain, fête pour le Seigneur. » Le lendemain, dès leur levée, ils offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, il se leva pour se divertir. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Descends donc, car ton peuple s'est corrompu. Ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais pourtant prescrit. Ils se sont fait une statue de veau. Ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié et ils ont dit, « Voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Je vois ce peuple. Eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. » Et maintenant, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux. Je vais les supprimer et je ferai de toi une grande nation. » Mais Moïse apaisa la face du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte à grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la surface de la terre? « Reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance, et ils le recevront comme patrimoine pour toujours. » Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables de la charte en main. Tables écrites des deux côtés, écrites de part et d'autre. Les tables, c'était l'œuvre de Dieu. L'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit le bruit des acclamations du peuple et dit à Moïse, « Bruit de guerre dans le camp. » Mais celui-ci dit, « Ni le bruit des chants de victoire, ni le bruit des chants de défaite. Ce que j'entends, c'est un bruit de cantique. » Or, comme il s'approcha du camp, il vit le veau et des danses. Moïse s'enflamma de colère. De ses mains, il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait, le brûla, l'écrasa tout fin, le répandit à la surface de l'eau et il fit boire les fils d'Israël. Moïse vit que le peuple était à l'abandon, car on l'avait abandonné, l'exposant à la dérision de ses adversaires. Alors Moïse se tint à la parole du camp et dit « Les partisans du Seigneur à moi !» Tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Mettez chacun l'épée au côté, passez et repassez de porte en porte dans le camp et tuez qui sont frères, qui sont amis, qui sont proches. » Les fils de Lévi exécutèrent la parole de Moïse et dans le peuple, il tomba environ 3000 hommes. C'était le récit qui est tiré du livre de l'Exode, chapitre 32, les versets 1 à 28. Alors, on voit que l'alliance qui vient d'être accomplie, les 10 commandements, bon, et déjà, le peuple se montre infidèle. Les éléments insolites les plus évidents, bon, c'est surtout les actes de violence. On voit vers la fin du texte que Moïse fait boire les cendres du veau d'or et fait tuer 3000 personnes de son propre peuple. Et ça, c'est tout juste après avoir reçu un des commandements qui était de ne pas tuer. C'est quand même assez paradoxal. Pourtant, l'élément le plus incompréhensible du texte, quand on porte un peu d'attention dans tout ça, dans sa forme actuelle, c'est au verset 14. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est passé quand même assez rapidement, mais au verset 14, Dieu va donner son pardon. Après l'intercession de Moïse en faveur de son peuple, Dieu décide de lui pardonner. Je vous le recite. « Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. » C'est assez clair. Pourtant, la suite du texte va décrire le massacre de ce peuple-là. Il y a un non-sens là-dedans. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce non-sens-là? Bien, ces deux réactions opposées de Dieu, le pardon d'une part, l'exécution de l'autre, donnent un indice qu'il y a certainement deux traditions à propos de l'histoire du veau d'or qui ont été comme fusionnées ensemble. Alors, on va essayer de démêler tout ça. Premièrement, on va regarder la tradition de l'exécution. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a un texte où il y a des personnes qui sont condamnées et même exécutées? Un premier récit est centré sur la punition du peuple pour sa faute. Lui aurait été écrit dans le royaume du Sud, qu'on appelait Juda, après que le royaume du Nord, appelé Israël, fut détruit par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Lors de la destruction du royaume du Nord, les Israélites qui vivaient au Sud ont interprété cette destruction-là comme une punition de Dieu pour le péché du royaume du Nord. Ce péché-là était en lien direct avec celui du veau d'or. Il y avait des veaux d'or au temple de Béthel, au temple de Dan, deux villes du royaume du Nord. Puisque Jérusalem et son temple étaient bâtis dans le royaume du Sud, bien le royaume du Nord avait bâti ses propres sanctuaires. Il essayait de faire compétition. On a une citation du Livre des Rois qui nous dit ça. « Le roi Jéroboam eut l'idée de faire deux veaux d'or et dit au peuple, « Vous êtes trop souvent montés à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça l'un d'eux à Béthel et l'autre l'installa à Dan. C'est au Livre des Rois, premier Livre des Rois, chapitre 12, les versets 28 et 29. Donc, une partie de cette dernière citation revient, même mot à mot, je ne sais pas si vous avez entendu ça, dans l'histoire du veau d'or. Ça parlait « Voici tes dieux ». Les prophètes Amos, Osée, vont dénoncer cette pratique d'aller dans ces temples vénérer ces statues de veau. La chute du royaume du Nord va être interprétée comme une punition de Dieu qui était causée par la production de ces statues de veau dans leur sanctuaire. Ce geste contrevenait clairement au commandement d'interdire les idoles. Le récit du veau d'or, avec sa finale d'exécution et de punition de Dieu, ce texte-là aurait été élaboré dans ce contexte-là, après la chute du royaume du Nord, pour justement placer l'accent sur l'interdiction des idoles et expliquer le fait que le Seigneur avait laissé tomber le royaume du Nord qui a été détruit. Alors ça explique bien comment ça se fait qu'il y a une partie du texte qui nous parle de massacre et d'exécution dans tout ça. Pourtant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une tradition de pardon. D'où vient cette tradition du pardon-là? Eh bien, la partie du récit où Dieu pardonne le peuple et renonce à punir proviendrait d'un milieu qui est complètement différent. Ça aurait été écrit après l'exil à Babylone. Plusieurs années après la chute du royaume du Nord aux mains de la Syrie, mais ça a été au tour du royaume du Sud de tomber sous les armées babyloniennes. Alors, tout a été détruit. Plusieurs habitants du Sud sont alors déportés en exil à Babylone. Et c'est là qu'il va s'amorcer toute une réflexion qui va engendrer une grande partie des textes de l'Ancien Testament. En exil, les Juifs vont interpréter les malheurs qui se passent autour d'eux. Ils vont se dire « Tous nos malheurs, c'est le fruit de notre péché ». Et ils espèrent profondément que Dieu va leur pardonner et va leur redonner le pays qu'il avait jadis donné à leurs ancêtres. On comprend donc pourquoi ce groupe qui est en exil raconte une autre version de l'histoire du veau d'or. Et cette version-là se termine par le pardon de Dieu, puisque eux-mêmes, ils espèrent être pardonnés et retournés en terre promise. Ils espèrent, tout comme le peuple, avoir le pardon de Dieu. Donc, ce qu'on a dans nos Bibles, nous, le récit qu'on a, c'est le résultat d'un amalgame de ces deux traditions-là à propos du veau d'or, qui ont été mis ensemble. Et ça explique pourquoi, dans un même texte, Dieu va dire qu'il pardonne et va exécuter 3000 personnes. Est-ce que cette dualité de pardon et de punition se retrouve dans nos vies? Est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Moi, je pense que oui. Et on va s'en parler dans quelques minutes, après quelques mesures, encore une fois, de Vivaldi. Thank you. Ici Sébastien Daune, vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible. Je vous demandais en début d'émission si vous croyez que le veau d'or était un récit de pardon ou bien un récit de massacre. Bien, on a vu que ce récit-là contient deux traditions qui ont été mises ensemble, amalgamées. Il y en a une qui mettait l'emphase sur le pardon de Dieu, alors que l'autre plaçait la justice de Dieu et décrivait l'exécution de 3000 personnes. Il mettait ça en premier plan. Donc, on est rendu à voir comment est-ce que ce texte-là peut nous donner à réfléchir aujourd'hui. Fondamentalement, le veau d'or, le problème, c'est une fausse image de Dieu, ce qu'il y a là-dedans. Ce récit nous invite à réfléchir sur notre propre image de Dieu. Aujourd'hui, je crois qu'il faut trouver un équilibre justement entre les deux visages qui sont portés par ce texte-là. D'une part, Dieu pardonne, mais il demande aussi à ce que ses commandements soient respectés. Donc, c'est un Dieu juste. Trop souvent aujourd'hui, les chrétiens vont se retrouver soit dans l'un ou dans l'autre de ces deux extrêmes-là en considérant que c'est la seule chose qui est possible. Alors, vont oublier complètement l'autre côté de la médaille. Par exemple, certains pasteurs évangéliques vont rappeler à leurs fidèles qu'il y a un jugement de Dieu qui va les punir, qui vont punir ceux qui sont pas fidèles au commandement de Dieu, que c'est super important et qu'il faut avoir peur de tout ça. Alors que de l'autre côté, il y a des catholiques aujourd'hui qui vont avoir tendance de ne jamais parler de jugement, d'enfer. Ils vont mettre l'emphase sur l'amour, le pardon, et c'est très bien, mais il faut s'avouer que dans la Bible, il y a les deux. La Bible parle des images de Dieu où Dieu pardonne et il punit. Et c'est à nous, les lecteurs de la Bible, de voir comment est-ce qu'on articule ces deux images-là pour que les Écritures puissent nous éclairer aujourd'hui. Comment articuler ces images de Dieu-là pour essayer de comprendre le pardon et la justice et intégrer ça à nos vies aujourd'hui. Pour illustrer ça, j'aimerais ça vous parler d'une expérience intéressante de lien entre le pardon et la justice qui provient de ce qu'on appelle la justice réparatrice. La justice réparatrice, c'est quoi? Bien, c'est un programme dont le but est la guérison des lésions des victimes, des délinquants et des communautés causées par un délit. Pour ce faire, ils vont favoriser la rencontre entre les victimes, les délinquants et les membres de la communauté qui veulent discuter à propos d'un délit et de ses conséquences-là. Lors de ces démarches-là, ils espèrent que les délinquants vont prendre des actions pour réparer le dommage qui est causé. Ils veulent créer des opportunités aux parties concernées dans un délit spécifique pour faire place à une résolution de problème. C'est simpliste de croire que seule une peine d'emprisonnement peut régler une situation. Ça change rien, la personne revient de sa peine d'emprisonnement et elle n'est pas réhabilitée. La justice réparatrice, c'est un moyen de travailler justement à la réhabilitation par le pardon. Comme société, on a à réfléchir comment gérer pardon et punition dans des choses très concrètes comme notre système de justice. On pourrait avoir un système judiciaire seulement basé sur le pardon ou seulement sur la punition, mais je crois qu'il faut chercher un équilibre entre les deux. De manière plus simple, on pourrait regarder ça dans notre vie de tous les jours. Si jamais vous avez eu un enfant, tout parent doit à la fois punir et pardonner son propre enfant lorsque celui-ci va aller contre les règlements de la maison. Alors, il y a deux réactions d'un parent qui sont à la fois nécessaires à l'apprentissage de l'enfant. Quand un enfant va faire quelque chose, oui, on va lui pardonner, on va dire on t'aime, puis recommence pas, mais il faut qu'il comprenne que c'est quelque chose qu'il a fait qui marche pas. Il faut quand même qu'il y ait une punition pour qu'il sache les limites. Alors, la double réponse de Dieu dans le récit qu'on a utilisé aujourd'hui se comprend peut-être un petit peu mieux lorsqu'on regarde que nous-mêmes, on a ces deux réactions-là en nous. Même si ces réactions sont opposées, elles sont là en nous et elles peuvent faire partie d'une pédagogie pour mener à un apprentissage. C'est déjà le moment de se dire à la prochaine fois. J'espère que le récit du veau d'or vous a intéressé et vous a donné matière à réflexion. Vous pouvez lire les récits, les réflexions abordées dans notre émission dans un livre qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Comme d'habitude, je vous incite à nous contacter. Alors, si vous avez des réactions, des commentaires, des questions, écrivez-nous. On prend toujours un temps au début de chaque émission pour justement prendre vos réactions en considération. Donc, par exemple, vous pouvez me dire comment vous comprenez le rapport entre l'image de Dieu qui punit et l'image de Dieu qui pardonne. Je vous rappelle notre adresse courriel auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, on va se tourner vers la mort d'un roi, le premier roi en fait de l'histoire d'Israël, Saül. Deux textes bibliques en parlent. Dans un premier récit, il se suicide, alors que dans l'autre, il se fait tuer par quelqu'un d'autre. On va voir les détails de tout ça la semaine prochaine. En terminant, merci à Alain Primo, notre technicien, et merci à chacun, chacune d'entre vous pour votre écoute. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.